le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, bienvenue à ce magazine dédié aux activités des Nations Unies. Au titre, la MONUSCO se dit déterminée à appuyer l'armée congolaise pour mettre fin au phénomène groupe armé encore actif dans l'est de la RDC. Elle n'a aucune intention de changer d'attitude à cause de son nouveau mandat. Le commandant des forces de la MONUSCO en veut pour preuve le succès récolté contre les ADF, désormais en débandade au Nord Kivu. C'est l'actualité de la semaine. 98 corps repêchés, 41 personnes sauvées selon le HCR, 251 morts selon le gouvernement. C'est le bilan d'un naufrage survenu sur le lac Albert la semaine dernière. Coup de projecteur sur les circonstances et l'assistance aux rescapés de cette tragédie avec notre invité du HCR dans ce magazine. Enfin, un rapport national sur le développement humain 2014 en cours d'élaboration. Ce rapport qui est attendu d'ici à juin prochain a pour thème la cohésion sociale et l'émergence de la RDC. Un expert du PNUD RDC en parlera avec détail dans la rubrique décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. La MONUSCO n'a aucune intention de changer d'attitude à cause du mandat. C'est en ces termes que le général Carlos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO, a exprimé toute la détermination de la mission onusienne de combattre les groupes armés après le succès engrangé contre les ADF dans l'est du pays. Nous sommes déterminés à soutenir les FARDC dans la traque des groupes armés, a-t-il indiqué lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Cette déclaration intervient peu avant la sortie d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le nouveau mandat de la MONUSCO. Plus de détails avec Jean-Pierre Elali Coco.
Intervenant mercredi par téléconférence à partir de Goma, le commandant Carlos Dos Santos Cruz a précisé que les Nations Unies sont déterminées à soutenir les FARDC dans la lutte contre les groupes armés. Ainsi, pour preuve, les FARDC appuyés par la MONUSCO ont réussi avec succès à déloger les ADF sur l'axe Mbao-Kamango dans les territoires de Beni. Selon la MONUSCO, les FARDC contrôlent près de 85% des positions occupées jadis par les ADF dans cette région. Le succès ainsi obtenu sert de tremplin pour motiver les casques bleus à soutenir davantage les FARDC. Général Carlos.
We don't have any expectation to change our attitude because of the mandate.
Nous n'avons donc aucune intention de changer d'attitude à cause du mandat.
I'm sure that the United Nations has the determination.
Je sais que l'ONU a toujours la ferme détermination de supporter les FARDC contre les groupes armés. Donc les résultats que nous avons déjà obtenus seront un tremplin pour motiver encore davantage la MONUSCO à soutenir les FARDC.
We work for the mandate.
Bien sûr, nous travaillons sous mandat, mais notre but principal est d'aider les populations en collaboration avec le gouvernement et les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc notre focus final, c'est bien sûr d'aller déterminer à donc finir avec ces groupes armés.
Energy and to go ahead with our determination.
Pour sa part, le colonel Félix Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO, affirme que les ADF sont en débandade et se dirigeraient actuellement vers la province orientale.
La semaine qui vient de s'écouler a été particulièrement marquée par des succès enregistrés par l'armée congolaise, appuyée par la force de la MONUSCO, dans justement leur détermination à traquer et à neutraliser tous les groupes armés, y compris les ADF. Par conséquent, tous les bastions ont été successivement contrôlés par les FARDC. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les FARDC, effectivement, contrôlent la situation à près de 85%. Sous cette pression, les ADF sont totalement en débandade et ils poussent un peu vers le nord pour aller vers la province orientale, mais des dispositions idoines ont été prises à cet effet, aussi bien par la force de la MONUSCO que par les FARDC pour justement contrer toute possibilité d'infiltration en province orientale.
Même détermination contre les APCLS actifs dans la zone de Niabiondo au Nord Kivu. À ce sujet, les commandants des forces de la MONUSCO affirment que la force de nuisance de ce groupe armé est réduite, les rebelles s'y rendent et que les FARDC sont maîtres de la situation.
Hier,
j'ai été à Lukweti et Niabiondo et j'ai eu l'occasion de m'adresser aux FARDC aux populations de Lukweti.
And I see the FARDC.
Je me suis rendu compte que les FARDC maîtrisent parfaitement la situation. Et au moment où j'étais à Niabiondo, des combattants de APCLS étaient en train de se rendre.
Enfin, des opérations préliminaires sont menées contre les FDLR. Le général Carlos reconnaît que ces rebelles ont commis eux aussi des actes criminels contre les populations. Ils n'ont d'autre choix que de rejoindre le processus DDRRR, sinon ils seront traqués comme tous les autres groupes armés.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La RDC élabore depuis le 18 mars dernier son rapport national sur le développement humain 2014 avec l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Cohésion sociale et émergence de la RDC, c'est la thématique de ce rapport. Jean-Paul Boquet-Chubofili est économiste national dans la section unité de politique et stratégie au PNUD RDC. C'est justement avec lui que nous allons décrypter ces concepts développement humain, cohésion sociale et émergence. Il répond aux questions de Noremi Senga-Kalala.
Jean-Paul Boquet-Chubofili, bonjour.
Bonjour.
Le PNUD est pleinement impliqué dans l'élaboration du rapport national sur le développement humain 2014 en RDC. Les travaux ont été lancés le 18 mars dernier et le thème pour ce document est cohésion sociale et émergence de la RDC. D'abord, qu'entendez-vous par développement humain?
Le concept de développement humain, c'est un concept très cher au PNUD. Il consiste à placer donc la personne au centre du processus de développement. Les théories de la croissance mettaient beaucoup plus une importance sur les revenus nationaux. Le concept du développement humain va au-delà de la croissance pour tenir compte des autres facteurs qui ne sont pas économiques. C'est dans ce cadre-là que depuis 1990, le PNUD a lancé une série de rapports sur le développement humain qui constitue donc sa publication phare et qui vise à mobiliser toutes les parties prenantes, tous les acteurs autour de la question du développement humain.
Pour les citoyens moyens, quelles sont les caractéristiques du développement humain?
Au fait, les caractéristiques du développement humain sont plus larges. Si vous voyez même à travers le rapport sur le développement humain, il y a des indicateurs économiques comme les revenus. Et au-delà de ces revenus, il y a d'autres indicateurs qui ne sont pas économiques, notamment la répartition de ces revenus, la question des libertés, les questions de genre, et les questions d'accès à d'autres services sociaux. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas de nature économique.
Par exemple, l'accès à l'eau, l'éducation, les soins de santé, ça fait partie des critères.
Exactement, ça fait partie de la gamme des critères du développement humain. En bref, ce qu'il faut voir, c'est que la croissance économique est beaucoup plus concentrée sur la question de revenus, tandis que le développement humain est plus vaste et inclut les questions de santé, d'accès à l'eau, à l'habitat, à l'environnement, avoir un milieu sain, avoir des infrastructures, donc les conditions minimum pour l'existence.
Par rapport au thème, pour le PNUD, le développement humain est tributaire de la cohésion sociale.
Oui, le développement humain est tributaire de la cohésion sociale.
En quoi consiste la cohésion sociale?
La cohésion sociale, en soi, c'est une cimentation des relations sociales. Une société est constituée des individus, des groupes, des strates, et tout ça, ça doit être soudé. Et cette soudure, cette cimentation qui permet aux individus de se maintenir ensemble, aux groupes de se maintenir ensemble, aux associations de se maintenir ensemble, tout ça, ça part de la cohésion sociale. Il faut cette cohésion sociale pour essayer de renforcer le développement.
Et la cohésion sociale implique la cohésion nationale.
Exactement. La cohésion sociale débouche harmonieusement sur la cohésion nationale. Et dans le cas de la société congolaise, les différents groupes ethniques, les groupes régionaux et tout cet ensemble-là débouche sur la cohésion nationale. En d'autres termes, on peut considérer comme une maison. C'est un édifice qu'on bâtit, donc c'est cette imbrication des groupes sociaux, des groupes ethniques et des différentes différentialités sociales qui constituent donc la cohésion nationale.
Un autre concept cher au PNUD est l'émergence. On parle des pays émergents. Qu'est-ce qu'un pays émergent?
Ce concept ne commence pas aujourd'hui. Mais seulement aujourd'hui, il a une certaine actualité. Il est presque devenu aujourd'hui dans tous les discours politiques des pays, surtout en développement, un concept phare, de telle sorte que partout, presque en Afrique, tous aujourd'hui rêvent de l'émergence. Mais en soi, dans l'émergence, il y a plusieurs composantes. L'émergence économique, parce que c'est beaucoup plus le volet le plus phare, il se réfère principalement à trois groupes de facteurs. Et quand on parle de l'émergence, on suppose donc une certaine croissance économique forte et soutenue sur une longue durée. On pense aussi à une certaine compétitivité et une attractivité du pays par rapport aux marchés ou aux investissements étrangers et nationaux. Le pays s'ouvre au marché mondial pour essayer d'attirer aussi bien des capitaux et vendre aussi ses produits. Et le dernier, c'est une certaine transformation dans les structures économiques, beaucoup plus une diversification, où le pays, s'il était beaucoup plus importateur, il peut se transformer en devenant exportateur, et ainsi de suite. Et il y a un changement dans les structures économiques. Par exemple, si le pays dépendait de l'agriculture, il peut promouvoir l'industrialisation et il devient un peu plus compétitif. Mais ce qui est très très important, c'est-à-dire si l'émergence économique a toujours dominé les débats, si le concept de l'émergence, ce n'est pas la seule composante de l'émergence. À côté du volet économique, il y a d'autres volets qui ont des implications très fortes, notamment le volet politique et les volets socio-culturels. Ce sont d'autres volets de l'émergence qu'il faut considérer. Mais le plus souvent, quand on dit le pays va devenir un pays émergent, dans l'idée, les gens mettent beaucoup plus les aspects économiques.
Quittons ce monde des concepts. Venons-en maintenant au rapport national lui-même, qui est en élaboration. Concrètement, en quoi consiste l'implication du PNUD dans ce travail?
Le PNUD, c'est les grands partenaires des pays en développement. Et avec sa mission du développement, il a beaucoup plus un rôle d'un appui politique et technique, d'une part, et de l'autre côté, d'un appui financier. Il vise beaucoup plus à appuyer les pays dans l'appropriation nationale de ces rapports, dans le développement des capacités pour l'élaboration de ces rapports, ainsi que dans la mobilisation et la coordination des autres partenaires ou des différents partenaires pour qu'ils puissent s'impliquer activement dans ces rapports. C'est pour cette raison que vous avez vu lors du lancement, il y avait presque toutes les catégories des acteurs qui étaient représentés et cela implique donc leur mobilisation et leur implication dans la cause de ces rapports.
Jean-Paul Bokuti-Bofifi, merci.
Nos nouvelles en bref. D'abord, Kisangani où 260 policiers, dont 28 policières, ont terminé jeudi dernier leur formation de base de 6 mois à l'école de police de Kapalata. Une formation en matière de police de proximité assurée par UNPOL, la police de la MONUSCO, en partenariat avec la police nationale congolaise. Ces policiers devront renforcer la couverture des quartiers ciblés à Bunia, en Ituri, et appuyer les actions de prévention en partenariat avec la population locale, ainsi que les interventions en cas d'urgence, de répression et ou de rétablissement de l'ordre public. Toujours en province orientale, 33 unités de transformation de produits agricoles ont été remises la semaine dernière aux déplacés internes du territoire de Mambasa. Il s'agit notamment de 4 décortiqueuses à Padi, 7 moulins mixtes, 9 presses à huile, 9 concasseurs et 4 égraineuses à maïs. Un don évalué à 1 million de dollars américains remis par le PNUD grâce au financement du gouvernement japonais. Les bénéficiaires de ce don, 15 communautés de déplacés internes avaient fui les zones qui ont subi des guerres à répétition, puis ont été longtemps menacées par des forces négatives. Enfin, au Kasaï oriental, 30 personnes, membres des associations communautaires, techniciens des ONG partenaires locales et agents de supervision de l'inspection de l'agriculture, pêche et élevage du territoire de Lomela, ont été formés sur les techniques de construction d'unités améliorées de fumage aux poissons, cela dans le cadre d'un projet de la FAO dénommé Programme intégré de réponse à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire en RDC, un projet financé par l'Union européenne.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous vous le disions dans les titres, 98 corps repêchés et 41 personnes sauvées. C'est le bilan provisoire du naufrage d'un bateau ougandais. Ce bateau avait quitté samedi dernier le district d'Ohima avec à son bord les réfugiés congolais. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui donne cette information a publié une déclaration en rapport avec ce drame. Cette agence des Nations Unies dit avoir mobilisé des ressources et du personnel d'appui pour soutenir les rescapés. Céline Schmitt, chargée de relations extérieures du HCR en RDC, revient sur les circonstances de la tragédie ainsi que sur les précautions à prendre dans l'avenir pour que pareil accident ne se reproduisent pas sur le lac Albert. Elle répond à partir de Nairobi aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Bonjour Céline Schmitt.
Oui, bonjour.
Oui, un bateau en provenance de l'Ouganda pour la RDC a fait un naufrage avec des réfugiés à bord. Le ACR a publié une déclaration par rapport à cette tragédie. Alors, pouvons-nous connaître exactement ce qui s'est passé?
Le ACR est choqué par le tragique naufrage d'un bateau qui a eu lieu ce week-end sur le lac Albert entre la RDC et l'Ouganda, dans lequel des dizaines de réfugiés congolais sont morts noyés. Ce bateau était un bateau commercial ougandais qui avait quitté samedi matin le district de Hoima, situé sur les bords du lac Albert, avec à son bord des réfugiés qui vivaient dans le site d'installation de Kiangwali et qui avaient décidé de rentrer chez eux dans l'est de la RDC. Selon les informations que nous avons reçues des autorités mais également des réfugiés, il y avait environ 250 personnes à bord de ce bateau. À ce jour, nous avons compté 41 survivants et 98 corps ont été retrouvés.
Alors, beaucoup de réfugiés congolais ont péri dans cet accident, vous venez de le dire. Le retour était-il volontaire? Sinon, comment expliquer d'un coup beaucoup de réfugiés candidats au retour de cette manière-là?
Depuis quelques mois, nous avons constaté une augmentation du nombre de réfugiés congolais qui rentraient spontanément d'Ouganda en RDC. Il s'agit principalement des réfugiés qui sont arrivés récemment en Ouganda et qui vivaient relativement près de la frontière ougandaise. La majorité de ceux qui rentrent actuellement en RDC se dirigent soit vers le territoire de Rutshuru, soit vers le nord de la province du Nord Kivu, vers les régions de Kamango.
Est-ce que ce retour est volontaire ou bien il a été précipité, provoqué même?
Les réfugiés qui rentrent chez eux ont pris la décision de rentrer chez eux. Ils rentrent chez eux de façon spontanée, donc ils quittent les pour rentrer chez eux en RDC.
Combien de réfugiés congolais sont-ils maintenant en Ouganda? Vous avez une idée?
Actuellement, il y a un peu plus de 175 000 réfugiés congolais qui vivent en Ouganda.
Dans sa déclaration, le ACR dit apporter une assistance aux rescapés de cet accident. Un mot sur cette assistance, Céline?
Nous avons dépêché sur place une équipe d'urgence pour pouvoir apporter une assistance aux rescapés de ce naufrage, mais également à leurs familles. Donc nous avons mis sur place un point d'information et d'écoute où les familles peuvent venir, mais également nous apportons une assistance aux rescapés, une assistance d'urgence et également une aide psychologique pour les naufragés de ce drame.
Quelles leçons tirées de ces naufrages et que faire pour éviter d'autres accidents de ce genre sur le lac Albert dans l'avenir?
Nous avions commencé une campagne d'information sur les dangers de la traversée du lac, puisque nous avions constaté depuis ces derniers mois qu'un certain nombre de réfugiés souhaitaient rentrer chez eux. Et nous avions commencé cette campagne d'avertissement pour prévenir les réfugiés des dangers lorsque cette tragédie a eu lieu samedi dernier.
Alors vous parliez tout à l'heure là de réfugiés congolais qui sont en Ouganda. Comment les ACR assurent-ils leur prise en charge sur place?
Sur place, en Ouganda, nous avons différents sites d'installation pour les réfugiés. Donc les 175 000 réfugiés congolais qui sont actuellement en Ouganda vivent dans des sites d'installation donc où nous leur apportons une assistance, c'est-à-dire une assistance en matière de logement, mais également de biens de première nécessité, ainsi qu'une assistance en matière de santé et d'éducation pour les enfants.
Revenons sur les circonstances de l'accident pour terminer. Qui a frété ces bateaux?
C'est un bateau d'une compagnie privée, ougandaise. Donc c'est cette compagnie qui a frété le bateau et des réfugiés avaient pris place à bord de ce bateau.
Et les ACR n'étaient pas au courant?
Il ne s'agit pas d'un bateau qui était affrété par le ACR. Comme je vous le disais, c'est un bateau d'une compagnie privée et les réfugiés avaient spontanément pris la décision d'utiliser ces moyens de transport pour rentrer chez eux en RDC. Mais comme nous avions constaté une certaine volonté ces derniers temps auprès des réfugiés de rentrer chez eux, nous avions lancé une campagne d'information pour informer les réfugiés des risques en matière de transport, notamment de transport sur le lac.
Céline Smith, nous vous remercions.
Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Un deuil national de 3 jours a été observé à partir du jeudi dernier en mémoire des réfugiés morts lors de ce naufrage. La décision avait été annoncée par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Notre nouvelle de province à présent, les ONG membres de la société civile œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la malnutrition s'opposent à la fermeture du bureau régional du programme alimentaire mondial, PAM, au Kasaï oriental. Cette déclaration est contenue dans une lettre de protestation destinée aux responsables de cette agence onusienne. Elle a été déposée lundi au chef de bureau de la MONUSCO à Mbujimayi. Ce collectif des ONG motive sa position par la hausse du taux de malnutrition aiguë et sévère qui frappe 11 territoires sur les 16 qui composent le Kasaï oriental. Selon eux, la malnutrition tue plus que la guerre et les premières victimes sont les femmes et les enfants. Le docteur Ilunga Ilungi, le chef de la délégation qui a été reçu lundi à la MONUSCO, est au micro d'Emmanuel Elameji.
PAM, en tant qu'agence de Nations Unies et de la population dans la sécurité alimentaire et dans la nutrition. Aujourd'hui, quand PAM est en train de fermer, on a trouvé que les deux Kasaï sont plongés dans la malnutrition la plus sévère. Sur 16 territoires qui composent la province du Kasaï oriental, il y a 11 qui sont plongés dans la malnutrition la plus terrible. Et pourtant, nul n'ignore que la malnutrition tue de plus que la guerre. C'est pourquoi nous sommes venus faire le plaidoyer à ce que le bailleur de fonds puisse voir quand ils sont en train de partir combien cette population est livrée à son propre sort. Tu as eu l'histoire des cantines scolaires. Ça a amené plusieurs enfants à aller à l'école. C'est pourquoi nous disons non, que PAM reste.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Liliane Eglinetti. Je suis célibataire. J'ai fait un bac B au collège La Flèche. J'ai fait le cycle 1 de l'École nationale d'administration, diplomatie et relations internationales. J'ai fait une maîtrise de droit privé à l'université d'Abomey-Calavi et un diplôme d'études approfondies en droit de l'homme et démocratie. Après ma maîtrise de droit, j'ai géré un restaurant pendant 2 ans où j'ai eu l'occasion d'apprendre la gestion du personnel, un certain nombre de choses dans le milieu professionnel qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Ensuite, j'ai travaillé avec une institution national, privé, qui faisait de l'appui aux artisans, le bureau d'appui aux artisans qui était financé par la coopération suisse, où on faisait de la formation pour adultes en développement de micro-projets et de micro-entreprises. Et en juillet 2006, j'ai rejoint les Nations Unies en tant que volontaire des Nations Unies à la division des droits de l'homme de l'époque et au bureau conjoint des Nations Unies aujourd'hui. J'ai travaillé successivement dans la province du Nord Kivu, Goma, Butembo, Beni, dans la province du Katanga et au nord Katanga à Kalemi, dans la province orientale à Kisangani et à Dungu, et au sud Kivu où je suis encore actuellement, à Bukavu. Je suis officier des droits de l'homme depuis 2006 que j'ai intégré la MONUC puis la MONUSCO, et en tant qu'officier des droits de l'homme, je participe au mandat général du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui est de veiller et de monitorer la situation des droits de l'homme en RDC. C'est une tâche immense comme vous pouvez l'imaginer. Dans mes attributions d'aujourd'hui, je suis en charge de la lutte contre l'impunité. Je travaille essentiellement à l'organisation des audiences foraines, des enquêtes conjointes judiciaires avec les autorités judiciaires, militaires et civiles. Je travaille également à la protection des civils. Et je fais le monitoring, par exemple, des opérations militaires conjointes pour s'assurer que dans la lutte pour la paix et la sécurité, les populations congolaises ne sont pas affectées par les effets négatifs des affrontements militaires. Je travaille également sur la formation de nos troupes, CASC, bleus qui viennent, comment leur expliquer en quoi consiste notre mandat, et leur expliquer comment nous travaillons ensemble, en quoi ils peuvent nous être importants avec les MILOPS pour leur expliquer qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain, et sur les éléments sur lesquels ils doivent insister lorsqu'ils font leur travail d'observation militaire. Lorsque j'ai du temps libre, je lis, je fais la cuisine, je fais un peu de sport, je fais quelques recherches sur les sujets qui m'intéressent. J'adore écouter de la musique. J'aime beaucoup la musique congolaise. Avant d'arriver en RDC, j'écoutais beaucoup la musique congolaise, mais en RDC, je suis complètement obnubilée par le travail occupé, par le temps que je donne à lutter pour les droits de l'homme
et je crois que j'ai perdu l'habitude d'écouter de la musique anglaise, mais je vais reprendre. Je fais du vélo d'appartement, et j'aime beaucoup nager également. Ce que j'aime manger, c'est liame pilée avec la sauce d'arachide. Bernard Bessé, le mets que j'ai découvert, que j'aime beaucoup, c'est le liboké de poisson avec du makemba. J'adore ce mets. Je me suis arrangée pour avoir un plat spécial aujourd'hui avant de retourner à Bukavu. Mes projets d'avenir, je suis entrée aux Nations Unies en rêvant d'occuper de très grandes fonctions pour avoir l'occasion d'être à un poste de responsabilité et apporter ma touche à la construction d'un monde meilleur. Surtout aux Nations Unies, j'ai eu l'occasion de voir que quand il y avait des volontés, on pouvait utiliser les moyens pour réaliser de grandes choses. J'ai fait un diplôme d'études approfondies et en principe, je devrais terminer mon cursus universitaire avec une thèse de doctorat. Et je pense que j'aurai l'occasion de la terminer et de la terminer.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question aux Nations Unies de ce dimanche a trait aux victimes de viol de Minova. Écoutez.
Oui, c'est Robert Saboué pour le journal Le Paris Africain. La MONUSCO s'est impliquée dans les dossiers de viol à Minova en novembre 2012 et des pillages perpétrés par les FADC. Aujourd'hui, pratiquement vers le 19 février, on est arrivé à des conclusions. On voudrait maintenant passer au plaidoiries. Mais quelque part, on est en train de se plaindre pour constater que c'est comme si les systèmes des Nations Unies, donc les humanitaires et autres, ont pratiquement abandonné les victimes des viols et que la MONUSCO qui avait amorcé l'action s'est pratiquement retirée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on entreprend en ce qui concerne ces victimes-là? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils semblent être abandonnés dans ce procès.
Voici maintenant la réponse de Carlos Arujo, porte-parole intérimaire de la MONUSCO, dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Je pense que les Nations Unies n'abandonnent jamais les victimes. On est toujours en train de suivre les dossiers. Donc, il y a toujours notre département des droits de l'homme font des suivis. Et si vous voulez plus d'éléments sur ces dossiers, j'ai ici le numéro 2 du bureau des droits de l'homme de la MONUSCO. Je peux le mettre en contact avec vous et vous pouvez parler de ça. Il a plus d'éléments, plus de détails.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À vos agendas, un rendez-vous à retenir lundi 31 mars, en marge des activités de la Journée internationale de la femme à Kinshasa. L'UNESCO organise un atelier sur les égalités des genres dans les médias. Une soixantaine de journalistes femmes et une dizaine de journalistes hommes vont y prendre part. Lieu, Centre Bethany, dans l'enceinte de la paroisse Sacré-Cœur, dans la commune de la Gombe. C'est la fin de ce numéro du magazine des Nations Unies, présenté par Mila Kimbuni avec l'assistance technique de Sylvain Matundu, supervisé par Julien Niamouini, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco, reportage Honoré Missenga. Vous pouvez également retrouver le magazine sur le site internet de la radio, www.radiocapi.net. Envoyez-nous vos suggestions, vos questions ou vos remarques en postant un commentaire en dessous de l'émission sur le site internet ou encore en nous appelant directement au 082 30 76 630. Notre adresse mail, maguen@radiocapi.net. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, excellente journée dominicale à tous. Au revoir.